Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Violence au Mali, le premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu ce mardi dans le village de Sobameba, théâtre d'une tuerie de civils dans la nuit de dimanche à lundi, au bilan officiel encore provisoire d'une centaine de morts. Et nouvel épisode d'un cycle d'atrocités entre communautés antagonistes. L'attaque de ce village Dogon fait suite au massacre le 23 mars à Rogosagou de quelques 160 peuls attribués à des chasseurs Dogon dans la région du centre du Mali, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Pour sa part, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a écourté un voyage en Suisse, est attendu ce mardi à Bamako. Dans ses premiers commentaires hier soir à Genève sur la tuerie dans le village Dogon, le chef de l'État a déclaré que le cycle d'atrocités entre communautés désormais antagonistes menace l'existence même de son pays. Depuis l'apparition en 2015 dans la région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur propre groupe d'autodéfense. Au Nigeria, l'augmentation spectaculaire du nombre et de l'intensité des affrontements entre éleveurs peuls, appelés Fulani au Nigeria, et agriculteurs au cours des dernières années suscite de plus en plus d'inquiétudes. Les régions les plus touchées par ce conflit sont dans l'état du Plateau et les états de Benue et de Taraba, dans le nord du pays. Ces violences ont fait beaucoup de morts et de déplacés. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, vient d'effectuer une visite dans l'état de Benue. Voici son reportage.
Benue est considéré comme le grenier du Nigeria et l'état le plus affecté par les conflits entre éleveurs Fulani et agriculteurs Tiv. Dans cette zone, les violences intercommunautaires se sont exacerbées ces deux dernières années, malgré l'adoption d'une loi interdisant la transhumance. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres chassés de leur village vivent dans les camps de déplacés installés par les autorités locales. Philippe Oussatse, agriculteur, a été contraint d'abandonner son champ pour se réfugier dans ce camp.
Une nuit, nous avions entendu des coups de feu sporadiques aux environs de 23 heures. Les gens couraient dans tous les sens, donc moi aussi, j'ai quitté mon village avec ma famille. D'ailleurs, je ne savais même pas la direction que ma femme avait prise avec mes enfants. C'est seulement le lendemain que j'ai pu les retrouver dans une communauté voisine.
Les attaques se produisent souvent lorsque le bétail s'égare sur les terres agricoles et détruit les produits des agriculteurs. Les deux parties s'accusent mutuellement. Chetima Mohamed est le secrétaire général de l'association des éleveurs Fulani de l'état de Benue.
Nous avons observé trois choses dans cette crise. D'abord, ils l'ont politisée. Deuxième chose, les jeunes considèrent cette crise comme une source de revenus. Ensuite, il y a des criminels dans les deux groupes. C'est la réalité.
L'accès à la terre et à l'eau, les sentiers des pâturages, la sécheresse, la désertification et l'appartenance ethnique contribuent aussi à ces violences. Mais l'augmentation soudaine du nombre d'attaques et de victimes suggère que le conflit va au-delà de l'accès aux ressources naturelles et au changement climatique. Ces violences ont instauré un climat de méfiance et de colère dans l'état de Benue et la police et les autres agences de sécurité ont donc envisagé une autre approche pour tenter de trouver une solution à la crise. Anen Sewesi Catherine, la porte-parole de la police de l'état de Benue.
At this point, we have decided to adopt community policing approach.
Nous avons adopté une méthode qui implique tout le monde et à tous les niveaux afin de permettre le retour d'une paix durable. Et je dirais que la situation est calme en ce moment, mais nous continuons à faire de notre mieux pour mettre tout en place.
Selon un rapport publié en 2017 par Global Terrorism Index, il y a eu 716 affrontements entre 2012 et 2018 entre agriculteurs, peuls et éleveurs au Nigeria. Gilbert Tamba à Benue au centre du Nigeria, VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bedi a dénoncé lundi ce qu'il appelle un mauvais procès après la condamnation par le gouvernement de ses propos contre les étrangers à 16 mois de l'élection présidentielle. Les détails avec Irénée Herman Ungo.
Le gouvernement a délibérément choisi des morceaux des propos du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, propos sortis de leur conteste pour en faire une exploitation tendancieuse, a affirmé le chargé de la communication du PDCI Jean-Louis Billon. Il a dénoncé le laxisme des autorités face aux problèmes évoqués par le président Bédié, les conflits intercommunautaires récurrents, leur paillage clandestin et des nombreux cas de fraude, selon lui, sur l'identité ivoirienne. Le gouvernement ivoirien a condamné les propos appelant à la haine de l'étranger tenus par l'ex-président 3 jours plus tôt, rappelant les récentes et meurtrières violences intercommunautaires dans le centre du pays. On fait en sorte que l'ivoirien soit étranger chez lui, mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela, a déclaré le président Bédié devant des délégués de son parti dans sa résidence de Daoukro. Dans une vidéo diffusée sur le site internet du PDCI, M. Bédié incrimine des étrangers armés présents en Côte d'Ivoire. Le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert d'orpaillage, a-t-il insisté.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Contestation au Soudan. Commerce et entreprises restent fermés ce mardi à Khartoum au troisième jour de la campagne de désobéissance civile lancée par la contestation. Les partisans du changement entendent maintenir la pression sur le Conseil militaire de transition malgré la répression pour obtenir un transfert du pouvoir aux civils. Des autobus de transport public sont visibles aujourd'hui avec des passagers à bord dans certains secteurs de la capitale, mais les principaux quartiers d'affaires de Khartoum restent fermés et la circulation est réduite. En réaction au lancement du mouvement de désobéissance civile, l'armée avait promis dimanche un renforcement de la sécurité et accusé les contestataires d'être responsables de ce que les militaires appellent les récents et malheureux incidents dans le pays. On reste au Soudan. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nadj, doit se rendre dans ce pays dans les prochains jours. Pour exhorter l'armée au pouvoir, il est représentant de la contestation à reprendre le dialogue. Sa visite à Khartoum est prévue au cours d'une tournée africaine du 12 au 23 juin. Jean-Roger Bion.
Le département d'État a précisé lundi que l'émissaire du gouvernement américain appellera à la fin des attaques contre les civils. Les États-Unis ont condamné la semaine dernière les attaques contre les manifestants qui réclament le transfert aux civils du pouvoir après la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril, remplacé par une junte militaire. Les négociations sont suspendues depuis le 20 mai en raison de divergences sur la composition d'une nouvelle instance qui serait chargée de mener la transition pendant 3 ans. Le pouvoir de Khartoum a tenté de faire baisser la tension en annonçant dans un communiqué l'arrestation au sein des forces régulières de plusieurs personnes en lien avec la répression qui a fait depuis le 3 juin 118 morts et plus de 500 blessés. Même les lignes de connexion Internet coupées dans l'après-midi lundi ont finalement été rétablies en fin de soirée. Mais la contestation a affirmé que le mouvement de désobéissance civile continuerait jusqu'à ce qu'un pouvoir civil soit instauré.
Le Gabon a un nouveau gouvernement depuis hier, quelques semaines après la révélation d'un trafic de bois précieux qui a provoqué un scandale politique dans le pays. Il s'agit d'une équipe gouvernementale restreinte rendue publique par le cabinet présidentiel. Le gouvernement passe à 28 membres contre 38 pour le précédent cabinet. Des détails à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obian Nze.
Dans son ossature dévoilée par le secrétariat général de la présidence de la République, le nouveau gouvernement gabonais se caractérise entre autres par le jumelage de quelques ministères. L'intérieur rejoint la justice, les solidarités nationales s'associent à l'économie et aux finances. Autre fait, le nombre de ministres délégués est ramené à 6 contre 8 dans la précédente équipe. Une dizaine de sorties, de retours et 3 nouveaux visages sont à signaler. Des jeux de chaises musicales et des départs presque inattendus complètent ce tableau. Il en est ainsi de Franck Guéma qui sort de l'environnement et du plan climat pour la jeunesse et les sports, poste qu'occupait Alain-Claude Bilibinzé, devenu ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Régis Imongo. Ali Bongo Ndimba a souhaité un cabinet restreint pour conduire sa nouvelle gouvernance économique et sociale, une vision basée sur la moralisation de la vie publique et l'accélération des réformes de l'État. Autant dire que pour l'acte 2 de son récent discours à la nation, il vient d'être servi par son premier ministre. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Et pour terminer, au Tchad, le pouvoir dénonce les pressions de Washington exhortant le gouvernement tchadien à organiser des élections législatives crédibles, maintes fois reportées depuis 2015. N'Djamena estime qu'il s'agit d'une affaire tchadienne strictement interne.